Donc, là, vous sortez d'une série de concerts. Vous avez fait le 23 février une release party à Tours.
Ouais.
Depuis quelques concerts, voilà, quel est le premier ressenti? Comment ça se passe?
Je te dirais plutôt bon. Voilà, le public est au rendez-vous. La release party était monumentale. C'était blindé, c'était sold out, quoi. Enfin, voilà, c'était notre premier sold out. Voilà, des retours ultra positifs, aussi bien en live que de l'album. Donc, pour l'instant, que du positif. Et il nous tarde de continuer les concerts.
Une release party, ça peut être du stress ou non? C'est un truc, enfin, on sait que ça va bien passer et autre ou non?
Ah non, c'est carrément du stress parce que c'est finalement la première fois que tu joues le set devant les gens. On avait déjà testé un ou deux morceaux pendant la tournée précédente. De temps en temps, on essayait un petit peu pour voir déjà comment ça pouvait répondre au niveau du public. Et donc voilà, c'est quand même un moment un peu stressant parce que bah ouais, tu sais pas si tu vas accrocher, tu sais pas si toi tu vas gérer, si en tant que musicien quoi, que tu vas faire le job. Voilà, alors après on a travaillé durement pour ça, donc finalement on peut dire il n'y a pas de raison de stresser, mais il y a quand même une petite appréhension tout du moins, mais qui est vite dissipée quand tu vois que devant toi tout le monde bouge et secoue la tête quoi.
D'accord. Donc si on revient un peu en arrière, on s'était parlé en 2015 pour la sortie de Leviathanima.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc hors ce nouvel album, en fait, quoi neuf si t'avais sur ces trois années? Il y a des.
Sur ces trois années, clairement, on a tourné l'album. Voilà, un nouveau guitariste lead, Anto nous ayant quitté suite à. C'est à l'évolution stylistique du groupe où il s'y retrouvait plus vraiment et il avait un autre projet à côté où il s'y retrouvait beaucoup plus, donc il a préféré quitter le navire en nous disant en tout bien tout honneur, hein, ça a été très propre, hein, voilà, il n'y avait pas de problème, c'était les gars, moi je me reconnais plus trop, je préfère plutôt que de continuer à composer avec vous et finalement faire un truc qui me plaît pas, je préfère arrêter là. Donc voilà, l'arrivée d'un nouveau guitariste. De l'échange, des rencontres, de la composition à fond, et puis la sortie du bébé, quoi.
D'accord. Est-ce que finalement, si tu prends toute cette période-là, les trois dernières années, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier, ou tu vois, qui te remonte rapidement à l'esprit, qui a un peu marqué cette période-là, tu vois, qui symboliserait cette période-là?
Ouais, c'est plus par la signification c'est une date, en fait, où on a joué avec un groupe de renommée dans le hardcore beatdown qui est Nasty, où clairement, c'est un groupe qui a un peu mauvaise réputation, et alors que en fait c'est des gars géniaux, quoi. Enfin, voilà, les mecs ils sont ultra humbles, voilà, et je dirais en fait c'est un peu de cette date-là où est partie l'envie de faire une musique plus hardcore et un peu moins métal, quoi.
D'accord.
Donc, je dirais cette date-là comme un petit souvenir.
Et donc côtoyer ces mecs ou les voir travailler avant ou après le concert, on apprend, enfin c'est formateur pour vous ou...
De côtoyer des comme ça, quoi. Ouais, c'est carrément formateur. Tu vois, déjà par les échanges humains, on a toujours prôné des valeurs humanistes et d'échanges, voilà, nous on croit en l'être humain. De voir un groupe de la notoriété de Nasty quand même, on était descendu du van, que c'est ils sont venus vers nous pour nous dire bonjour, quoi, ils ont même pas attendu qu'on déplace vers eux. Enfin, c'est forcément formateur dans la relation humaine. Faut pas oublier d'où on vient, et puis en termes de musique, de show, de côté un côté carré en live, on s'est dit ça brasse, quoi.
D'accord. Donc une fois le chapitre Leviathanima, je vais y arriver, fermé, est-ce que voilà, donc comme je disais, il y a des envies sur un son plus hardcore. Quand vous êtes retrouvés finalement et de dire bon, ok, on va travailler sur la suite, et la suite c'est un nouvel album, Ouais, quelle était le, je sais pas, l'idée directrice ou quel a été le projet commun?
Bah clairement en fait c'est le live qui nous a amené à le live de Lévias Anima qui nous a amené à cet album là. Au fur et à mesure des dates, on se rendait compte qu'il y avait des choses qu'on ne voulait plus faire musicalement et d'autres choses qu'on voulait appuyer et accentuer. Et c'est vraiment le live qui nous a dirigé dans cette branche musicale et dans la composition de ce nouvel album.
Et est-ce que cette approche-là a changé toi, la façon dont tu as dû gérer ton instrument ou je sais pas ta technique ou un aspect?
Ça, c'est pas forcément, ça n'a pas différencié ma technique parce que ça, je dirais plutôt que j'ai retrouvé le jeu que je pouvais apprécier auparavant avec l'album Lévias Anima qui était plus technique finalement. Je pouvais pas exprimer complètement ce que j'aime. Moi, ce que j'aime dans la c'est une frappe bien posée au bon moment plutôt qu'un truc ultra technique qui est en signature qui est en 7/4 et tu sais pas où prendre le temps et voilà quoi.
Donc le jeu du je tape le vite possible ou je trigue ou des machins, ça t'intéresse pas?
Mais pas du tout, ça m'a jamais intéressé et d'ailleurs j'ai jamais trigué ma batterie et c'est pour moi inenvisageable. Moi j'aime un batteur qui a une frappe, qui a un placement, plutôt qu'un batteur qui va aller à 250 mais qui est obligé de trier parce que sinon la grosse caisse elle fait pas boum boum quoi, elle fait tout.
D'accord. T'as des musiciens références un peu sur ce domaine là ou
des batteurs ouais, qui m'ont influencé grosso modo
quoi. Ouais, ou qui rentrent dans ce que vers le chemin que tu cherches quoi.
Pour ne pas les citer, mais il n'y a pas que le batteur, finalement, c'est un peu plus musicose, mais c'est le batteur de Matt Ball, clairement, qui a un jeu impressionnant. Quel autre batteur je pourrais dire
pas d'obligation, hein, comme tu le sens.
Ouais, non, mais il n'y a pas de problème, je réfléchis en fait à voir.
Parce que pour compléter, je dois bien dire que le hardcore pur c'est pas spécialement ma tasse de thé.
Ça calme, ouais.
Même si je loue les groupes qui durent. Et effectivement, vu de l'extérieur, en n'étant pas connaisseur du tout, on se dit bon, c'est un truc bien bien bourrin, le mec il frappe bien fort, très vite, et puis il cherche pas trop à comprendre. Et c'est beaucoup plus subtil, bien sûr.
Ah ouais, carrément. Ah bah, si tu veux faire sonner un morceau de hardcore, c'est pas le but, c'est pas d'en foutre des tartines, c'est juste mettre le bon coup au bon moment, quoi. Enfin, moi, je vois le hardcore comme ça. C'est ultra important de pas être un technicien pur et dur. C'est-à-dire, je tartine et j'en fous partout. Non, c'est vraiment une réflexion sur le son et sur ta façon de frapper, quoi.
D'accord. Est-ce que, comme traditionnellement, vous avez commencé à enregistrer Stigma par la batterie?
Ouais, tout à fait.
Et donc, quand tu enregistres, t'as quoi? T'as des maquettes ou autres dans les oreilles, casque?
De toute façon, on a toujours fait les démos avant parce que on voulait déjà avoir un aperçu de ce que pourrait donner l'album, entre guillemets. Donc, tout l'album avait été enregistré à la maison, alors en mode vite fait, mais avec des guitares quand même déjà assez droites et tout. J'enregistre avec les guitares témoins dans les oreilles et le clic et c'est parti quoi.
Et est-ce que par exemple tu proposes différentes alternatives sur chaque titre et puis après pot de vin ou le groupe tranche ou tu sais ce que tu veux, tu y vas et c'est
franchement, aujourd'hui, c'est plus en studio que t'essayes des trucs. Faut pas se leurrer, le studio ça coûte cher. Par contre, ça, tout ce travail-là, il a été fait en amont, en studio de répète. Comme tous les morceaux ont été composés à 5, on était tous les 5 dans le studio de répète, et puis on bossait entre nous, on essayait des choses, on testait des trucs. Donc ce travail-là, il a été fait, proposer plusieurs alternatives, tout ça. Mais c'est en studio finalement. Voilà, on enregistre ce qu'il faut enregistrer, ce qu'on a décidé ensemble. On peut des fois essayer une idée ou un break, tu vois, un petit truc. Mais le gros de le gros de la rythmique est déjà pensé en amont, quoi.
D'accord. Combien de temps il t'a fallu pour mettre tout ça en boîte?
C'est pas compliqué. On a commencé les prises le lundi à midi. Ouais, c'est ça. Le lundi à midi, on a commencé les prises réelles. Parce que bon, le lundi matin, c'était les placements des micros,
ouais,
le son, tout ça, etc. Enfin, tout bordel, quoi. Et le mercredi, c'était en boîte. Il a fallu deux jours et demi.
Et tu sors de là en quel état physique?
Fatigué, faut pas se leurrer, c'est ultra fatigant, mais c'est ultra plaisant parce que finalement tu te retrouves face à toi-même, t'es toi et ton instru, tu sais que tout ce que tu dois jouer, ça doit être le meilleur de toi, et que la prise que tu vas faire derrière, il faut qu'elle soit aussi bonne que les autres d'avant, voire même meilleure. Donc c'est vraiment c'est ultra fatigant, mais c'est il y a un côté, ouais, je dis plaisant dans le sens où tu te retrouves face à toi-même.
Et toujours pour là aussi pour un peu parler cuisine entre guillemets, t'as une idée de combien de fois tu joues chaque titre, et est-ce que après chaque prise t'as une réécoute de ce que tu viens de faire?
Ouais. Alors j'ai pas une idée de combien de fois j'ai joué les titres parce que ça dépendait des fois, mais grosso modo il y avait une première fois le titre en entier, bon voilà, même s'il y avait des pains, des choses à revoir, une première salve pour déjà David se rendre compte de ce qu'on voulait faire réellement, voilà, de comment ça pouvait sonner. Et puis bon, généralement cette prise-là a dégagé, hein, puisque c'est la première, donc c'était pas forcément la meilleure. Et puis après c'était reparti, quoi. On a travaillé et on refaisait le morceau. Je dirais qu'il y a des morceaux que je dirais plutôt en termes de temps plutôt qu'en nombre de fois, il y a des morceaux que j'ai bouclés en une heure et demie, il y a des morceaux que j'ai dû boucler en 4 heures, quoi, tu vois, c'est parce qu'il y a des trucs, bah t'as la fatigue, t'as bon voilà, c'est ça dépendait vraiment vraiment des moments.
D'accord.
Voilà un peu pour ouais, et puis bah ouais, après de toute façon une fois que David me disait bon c'est bon là on l'a, hop, c'était direction la cabine, on écoute, et puis des fois c'était ah non vas-y ça faut le refaire, ça me plaît pas, vas-y non il faut plutôt que je le fasse comme ça, un peu plus au fond du temps ou un peu plus devant, donc et des fois on faisait des petites retouches comme ça.
D'accord. Est-ce que justement, avant votre approche du studio ou dans le studio, vous avez modifié d'une façon ou d'une autre votre façon de travailler par rapport à Levia et Tanima?
Dans la composition, comme je te disais tout à l'heure, en fait, cet album-là, on l'a composé vraiment à 5 dans le studio de répète. Contrairement à Levia et Tanima, où c'était plus les guitaristes qui amenaient des morceaux quasiment tout faits et on faisait un petit peu d'arrangement. Là, c'était plus, on a des idées de riff, ou des idées d'onomatopée, ou d'un petit truc rythmique, ou machin, et on construit à partir de cette idée, et on développe, et des fois on dégage, on se dit, ah non, vas-y, c'est fini, on recommence à zéro. Donc, dans notre façon de composer, forcément, ça a été différent. Par contre, notre façon de travailler, pour ma part, à côté, est restée la même, c'est-à-dire que, c'est faut bosser tous les jours. Y a pas de secret. Hein. C'est quand t'arrives en studio, de toute façon, il faut que tu connaisses, faut connaître les morceaux par cœur et faut les maîtriser à 200% pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Donc c'est vraiment, je bosse tous les jours.
D'accord. Comment s'est fait le choix d'avoir trois guests au niveau du chant?
C'était des rencontres, clairement. Alors Paul, c'est un ami de longue date d'Emile, qui est voilà, c'est un très très bon chanteur, hein, qui a une super voix, et Emile avait envie de partager un titre avec lui, et quand il lui a dit écoute Paul, ça me ferait ultra plaisir de partager un morceau avec toi, Paul a clairement répondu présent. Pour ce qui est de Romain, c'est le chanteur de Real Deal, qui est un autre groupe de hardcore de Tours, alors plus dans l'esprit backtrack, etc. Mais pareil, quand on lui a proposé, on fait, est-ce que ça te dirait de faire une chanson, tout ça, avec nous? Lui, il nous a clairement dit, écoutez les gars, ça aurait été sur l'album d'avant, je vous aurais dit non, mais quand on lui a fait écouter la démo, c'était... carrément, ça me botte à 100%. Et puis, bah, c'est quelqu'un, c'est des gens qu'on voit ultra régulièrement, hein, ils sont autour, enfin, pas Paul, mais on les voit ultra régulièrement en concert, sur la route, etc. Donc, voilà. Et puis, pour Slide, Dan Force nous a fait l'honneur d'accepter de faire un feat. Mmh. Pareil, c'est une rencontre, en fait. C'est un groupe avec qui on a joué plusieurs fois, qu'on a fait jouer avec l'association sur Tours, qui a dormi à la maison, et voilà, il y a eu des échanges, des machins, c'est devenu des potes, quoi, clairement. Et Emile avait une idée en tête, et il en a parlé un soir, quoi, en mode, putain, ça te dirait pas, enfin voilà, te poser ta voix, je pense qu'il y a peut-être un petit truc à faire et tout ça. Et lui, il lui a dit, bah attends, vas-y, donne-moi les paroles, j'ai besoin de voir les paroles et tout. Et il fait, attends, j'ai des idées là et tout, je te propose un truc, tu me dis si ça te plaît. Il nous a envoyé des démos et c'était quasiment ce que t'attends là sur l'album, quoi. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait. C'est des vrais featuring, en fait, c'est vraiment des rencontres avec des gens. C'est pas genre juste j'envoie un mail à un chanteur d'un nom d'un hardcore et voilà, parce que Dan Force c'est quand même un peu connu dans la scène française dans le hardcore, et c'était pas juste pour avoir un nom et genre je te file un billet pour t'accepter sur l'album comme ça peut se faire pour certains artistes, mais voilà.
D'accord.
Ce sont des vrais guests.
Ok. Pourquoi les choix d'Home Studio Potvin? Et puis ensuite, là pour, je crois que c'est le mixage ou le
mixage, ouais, c'est ça, le mixage mastering qui a été fait par Nijet.
Ouais, et plus Jimmy King.
Ouais, alors, pour le Dome Studio, on est retourné là-bas parce que clairement, David, c'est un ami. Voilà, on savait ce qu'il allait attendre de nous, on savait que c'était quelqu'un qui ferait pas n'importe quoi aux manettes, qui allait nous faire des bonnes prises. Voilà pourquoi la proximité aussi, hein, c'était arrangé, donc c'est pas loin de chez nous, donc voilà, il y a le côté pro conscience et pratique.
D'accord.
Je dirais pourquoi Nicklet et puis Jimmy King, bah clairement parce que le son a évolué et qu'on avait plus envie de du son de Jimmy King, même si on était content du son qu'il nous a fait sur le précédent album, on avait envie d'autre chose clairement, et un son plus brut, plus hardcore, hein. Et on s'est fait des playlists de personnes qui mixaient et tout ça, et finalement le son de Nijet nous a tous plu unanimement, et on s'est dit carrément ça nous plaît, je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool. Et quand on l'a contacté tout simplement, lui a envoyé un mail et il nous a répondu le plus simplement possible. Et on a échangé, il nous a demandé des démos, tout ça. Ça, il fait, ouais, carrément, ça me plaît. Pas de problème, je vous fais le son, les gars, il n'y a aucun souci. Enfin, j'ai parlé, alors que c'est quand même le batteur de Terror, quoi. C'est quand même pas n'importe qui. Et j'ai parlé comme si c'était un pote, quoi. Enfin, c'était ultra simple, ultra cool, tranquille. Donc, voilà pourquoi, c'est vraiment pour des choix artistiques.
D'accord. Alors au niveau business, donc il y a Clonosphère, Durama Records,
ouais.
Et puis Season of Mist pour la distri.
C'est ça.
Clonosphère, c'est quoi, l'Europe? Diodorama, c'est les États-Unis ou comment ça se passe?
Non. Clonos, c'est la France.
C'est la France.
Et voilà. Et Durama, c'est l'Indonésie.
Ah, l'Indonésie, d'accord. Je voyais sur leur site, c'était vendu en dollars. Je me suis dit, ok.
Ouais, c'est parce que c'est l'Indonésie en fait.
Et en Indonésie, ça vient d'où ça?
Alors, clairement, c'est grâce à un groupe français dans le hardcore, un groupe qui a une quinzaine d'années, c'est Primal Age, qui était passé par chez eux et puis qui avait parlé de nous en fait. Et le mec nous a contactés et nous a dit écoutez les gars, je sais que vous êtes en train de faire du nouveau son et tout ça, j'aimerais bien jeter une oreille. Voilà. On lui a envoyé les démos. Et clairement, il nous a dit, putain, ça me botte à mort, j'ai envie de signer cet album en Indonésie. Par contre, du coup, moi, je fais une production cassette en Indonésie.
Ouais, est-ce que j'ai vu
Voilà, est-ce que ça vous botte et tout. Et on s'est dit, pourquoi pas, quoi, on est pas fermé. Donc, il nous a fait une petite série de cassettes qui est distribuée en Indonésie. Et enfin, qui va être distribué parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et il va nous en envoyer. Et comme ça, on aura des cassettes aussi pour nous avant de sur la route. Donc voilà. Et puis il fait si ça marche, j'en represse d'autres derrière. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était pareil la rencontre à distance, mais la rencontre qui a fait que.
La cassette, ça a un côté plutôt marrant, mais.
Ouais, mais le produit, c'est en Indonésie, il nous disait qu'il vendait à mort de cassettes.
Non, c'est bien possible. Mais quand tu reçois un mail d'un truc indonésien, tu te dis c'est une vanne ou.
Sur le coup, tout de suite, on s'est dit attends, il n'y a pas envie de sourage.
Ouais.
Ça a été plutôt ça. C'est quoi le plan exact? Parce que, en plus, quand c'est un anglais qui parle anglais, t'es sûr de ce qu'il raconte, mais quand tu te dis putain, c'est un étranger qui parle anglais,
ça
est-ce que dans les mots, est-ce que c'est bien ce qu'il veut dire, quoi?
Ouais, donc, tu veux pas envoyer ta musique et puis après qu'elle se retrouve je sais pas où, t'as plus de contrôle sur rien.
C'est ça. Non, on a envoyé plusieurs mails, on n'a pas envoyé de la musique tout de suite.
Bien sûr, bien sûr.
On s'est posé des questions, il a posé des questions, là, tout ça. On a vu qu'il avait fait Primo Ledge, on a téléphoné au gars de Primo Ledge, on les connaît. Voilà, on fait écoute, Didier, tu connais machin et tout. Ouais, carrément, c'est un super gars, il fait super beau boulot. Lui, il nous a envoyé les cassettes, là, tout ça. Donc, non, on peut y aller, c'est un gars de confiance. Et donc, on s'est dit, banco, quoi. De toute façon, on s'est dit, ça fait, dans le pire des cas, ça fait juste un flop et il nous restera 20 cassettes sur les bras. Et. Dans le meilleur des cas, ça fera toujours de la promo, le mec qui parle de nous.
Et vous allez devenir des stars en Indonésie.
Je ne sais pas si on va devenir des stars en Indonésie, mais en tout cas, nous, on aimerait bien, de toute façon, partir de la France et partir de l'Europe. Jouer en France, jouer en Europe, on l'a déjà fait. On continuera, bien évidemment.
C'est cool, hein. Mais faut faire une tournée à Bali, les mecs. Hein.
Et clairement, on a envie d'aller jouer ailleurs, à fond.
Bien sûr.
On a les potes d'Aléa Jacques Taest qui nous ont dit... Les concerts qu'on fait en Inde, au Sri Lanka, ils sont juste ouf, quoi. Les gens, ils sont ouf là-bas et c'est les meilleurs concerts de notre vie pour l'instant. Et on a envie d'y aller, alors pas que parce que c'est les meilleurs concerts, mais parce que juste on a envie aussi de se frotter clairement à d'autres cultures, mais d'autres cultures lointaines, pas des cultures européennes. On a envie de se frotter aussi un petit peu à autre chose et on se dit, ça fera toujours un pied là-bas. Alors ça s'organise pas toujours en Inde, une tournée en Indonésie, hein, c'est clair. C'est beaucoup d'argent, mais on se dit au moins on aura un pied là-bas, quoi. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir.
D'accord. Autre aspect important, donc le visuel. Alors autant avec McBride, vous avez fait un truc super lumineux. Autant là avec Amo, c'est l'inverse, hein, c'est l'obscurité.
Alors juste par contre, c'était Guilin le Vilain qui avait fait le.
Voilà.
Mais c'est pas grave, t'inquiète, y a pas de soucis.
On est passé de l'un à l'autre, quoi.
Ouais, carrément. Écoute, c'était la même chose. Hein, on lui a envoyé un mail. C'était des idées l'idée de la femme qui est la valeuse de sabre, quoi, où on lui a donné juste l'idée. Et lui, il nous a dit, attendez, votre image, là, me parle à fond, j'ai des idées, je vous envoie des croquis et des dessins, et vous dites si ça vous parle. Et ça nous parlait à mort, quoi. Et effectivement, on passe du tout au tout. On passe d'un truc bleu, lumineux, à finalement un marron sépia, ultra sombre et ultra violent dans l'image. Mais on avait aussi envie de changer, tout en gardant un côté dessin graphique, tu vois. On n'avait pas envie de travailler avec un graphiste qui fait juste un vieux montage Photoshop. On est attaché aux personnes qui sont des artistes et qui font du vrai, quoi. La pochette de l'artwork, le mec, il la dessine sur papier, quoi. Il n'est pas avec sa tablette numérique à dessiner sur son ordinateur. Non, il prend son crayon et sa feuille. Et il dessine sur la feuille, donc c'est ce qui nous a plu chez lui.
Et vous l'avez le dessin original?
On a des photos du dessin original, on n'a pas le dessin original.
D'accord, d'accord. Toujours dans le visuel, donc vous avez des clips vidéo.
Ouais.
Donc vous avez fait Danse Macabre.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors là, si j'ai pas complètement rien compris, c'est qui a été réalisé par Sébastien Vallée.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que tu peux nous en raconter d'abord sur le comment s'est passé le tournage et est-ce que vous avez d'autres choses dans les tuyaux?
Alors, comment s'est passé déjà la rencontre avec Sébastien, ça a été la rencontre d'un pote d'un pote, quoi, voilà, grosso modo. On cherchait quelqu'un qui était un artiste, entre guillemets, quoi, et quelqu'un qui faisait de véritables choses, pas genre juste que des clips. Amateur, et voilà, on avait envie d'un vrai produit fini, et ce mec là c'était son premier clip vidéo, c'est pas de clip avant.
D'accord.
Il fait des courts-métrages, des séries, tout ça, il travaille chez Canal, il travaille pour Canal, et donc c'était son premier clip, et d'où le côté un peu court-métrage finalement de ce clip, parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit mais il se passe quoi après, il y aura une suite,
Mais c'est ça, la fin est ouverte.
Ouais, c'est ça. Et non, du tout, il n'y aura pas du tout de suite à ce clip. C'était un clip, c'était un court-métrage. Et voilà un peu comment ça s'est passé. Sur le tournage en lui-même, ça a été une journée qu'on a fait le clip en entier, en une journée, avec tous les figurants et tout. Ça a été une très très longue journée, très intense. Voilà, il y avait... Il y avait, je ne sais plus, plus d'une trentaine de figurants.
Mmh.
Voilà, c'était un gros truc, mais c'était génial. On plaint surtout l'acteur principal, celui qui jouait le rôle du pendu, qui a passé une journée pieds nus dans la boue, alors qu'on était le 5 janvier. Il faisait un froid de canard, et lui, il a joué son rôle à fond. Donc voilà, non, c'était super cool, super enrichissant, et en plus il a flotté toute la semaine et on s'est dit putain on va jamais pouvoir tourner, et finalement il a pas flotté cette journée-là. On a rangé tout le matos, genre à 20h on avait tout rangé et il a commencé à flotter à 20h15, enfin voilà, gros coup de bol. Voilà, c'est pour les anecdotes du tournage.
D'accord.
Est-ce qu'on a d'autres choses dans les tuyaux? Clairement, on a des idées. On a quelques images live là qui tombent, et on a envie de tout du moins de proposer une petite vidéo live, enfin un petit clin d'œil à ce qu'on peut faire en live pour aussi donner l'envie aux gens de venir nous découvrir que c'est pas juste un bonhomme qui crie et des guitares qui saturent, quoi, qu'il y a autre chose qui se passe en live avec Beyond. Donc voilà, il y a cette envie qui est là, et puis l'envie d'un autre clip, mais bon, ça par contre c'est dans les tiroirs, mais pour l'instant on n'a pas ouvert le tiroir, quoi.
Ok, juste pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les mois qui viennent?
De continuer à tourner, continuer à faire des dates, à ce que le public réponde aussi présent qu'il n'a répondu pour l'instant.
Pour l'été, vous avez des pistes ou c'est plutôt l'automne?
Pour cet été, on a quelques festivals au mois de juillet, début juillet, et après on n'a rien, et après la tournée recommencera certainement en septembre. On a déjà quelques dates qui sont tombées, plus la tournée européenne, fin octobre, début novembre. C'est ça, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est juste que ça continue à se passer bien, quoi.
Super, écoute, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et puis, voilà.